bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Eh bien, cet invité du jeudi, aujourd'hui, est un ex-craponnais. Hein, c'est Patrick Charrier. Alors, pour les plus anciens, Charrier, ça parle, puisque son papa avait travaillé à Craponne, bien sûr. Hein, il avait son entreprise. Et puis après, il y a eu Jean-François, son frère aussi, qui a une entreprise d'électricité. Lui, il était directeur d'hôpital. Il est à la retraite. Et il a écrit un livre, « Monsieur le directeur, justement, je voulais vous voir ». Eh bien, on va pas le voir, mais on va l'entendre dans quelques instants, puisqu'il va nous parler un peu de sa carrière, hein, puisqu'il est passé alors par Lyon, Vienne, Manosque, Arles, Annonay. Donc, beaucoup de souvenirs, vraisemblablement. On le retrouve dans quelques instants. Et tout de suite, on retrouve Patrick. Patrick, bonjour.
Bonjour, bonjour Jean-Pierre.
Eh bien, bienvenue. Hein, donc, nous, c'est un peu des retrouvailles aussi, parce que ça fait quelques années qu'on ne s'était pas vu, hein, même si j'étais plus en contact avec ton frère Jean-François. Alors, tu as voulu écrire ce livre. Le titre est sympa déjà. Monsieur le directeur, justement, je voulais vous voir. Tu m'as dit que c'était la phrase que tout le monde te disait.
Oui, parce que j'ai toujours été un directeur de terrain. Je n'ai jamais voulu m'enfermer dans mon bureau. J'avais là besoin de temps en temps de sortir du bureau et d'aller visiter les services et rencontrer tout le monde. Et on me disait, ah, monsieur le directeur, justement, je voulais vous voir. Et donc, c'est une phrase que j'ai entendue 10 000 fois dans ma carrière. Et donc, j'en ai fait le titre de mon livre. Voilà.
Oui, vas-y.
C'était ma manière à moi de pouvoir rester en contact avec les équipes. Et à un moment, on parle beaucoup de la gestion de l'hôpital. Oui. Je crois que le côté, l'aspect humain de la gestion est quand même déterminant. Et donc, pour moi, ça a toujours été un devoir d'être très disponible. Donc, les médecins ne prenaient pas de rendez-vous avec moi ou très peu. Ils disaient, je peux passer vous voir. Je dis, écoutez, je suis là, j'ai du temps, passez me voir. Donc, ils pouvaient passer me voir. Je les voyais tous les jours, y compris le samedi, et s'il fallait également le dimanche. C'était ma manière à moi d'avoir aussi, quelque part, la paix sociale, parce que les personnels savaient que le directeur était abordable, qu'on pouvait lui parler, qu'on n'avait rien à craindre de lui parler. Et donc, voilà. Donc, monsieur le directeur, j'étais toujours, le directeur était facilement visible.
Alors, justement, donc là, c'est une grosse entreprise. Parce que, alors, toi, tu as fait Lyon, Vienne, Manosque, Arles-Annonay. C'est des promotions ou c'est toi qui as demandé le changement?
Alors, c'est moi qui ai demandé le changement, mais ça a été aussi en partie des promotions, puisque à partir de Manosque, j'étais chef d'établissement. Et surtout, à Annonay, j'étais chef d'établissement. Alors, pour situer quand même la responsabilité d'un directeur d'un centre hospitalier général de taille moyenne comme Annonay, c'est 1270 bulletins de paye par mois. C'est un budget de 80 millions d'euros par an. Et les directeurs d'hôpitaux, on est un peu comme les curés, on cumule les paroisses. Donc, j'avais l'hôpital de Tournon, le centre hospitalier de Tournon. J'avais l'hôpital local de Serrières, et il m'arrivait d'avoir aussi la maison de retraite à côté de Manosque, d'Annonay. Et ça faisait quand même beaucoup de lieux. Et quand c'était à la saison des conseils d'administration, j'étais obligé de me taper 3 ou 4 conseils d'administration, 3 ou 4 commissions médicales, 3 ou 4 les comités techniques d'établissement pour rencontrer les syndicats. Ça faisait quand même beaucoup, beaucoup de réunions. Mais voilà, ça se faisait à condition qu'on le fasse en toute simplicité.
Oui, parce que c'est quand même compliqué. Alors bon, là, on ne va pas trop partir là-dedans, parce qu'on entend tout et son contraire avec le Covid-19. Alors l'hôpital a été beaucoup mis en question, quoi, c'est vrai. Hein. Mais comme dans toutes les entreprises, je crois, il y a des directeurs peut-être comme toi qui sont plus près du personnel, et puis d'autres qui sont vraiment directeurs, qui, pour l'aborder, il faut passer par... plusieurs services, tandis que c'était différent, toi. C'est ce qui manque peut-être à certains hôpitaux.
Moi, je crois que c'est très important. Et c'est pour ça que ma carrière, je n'ai pas cherché à travailler dans des CHU. Bon, j'ai commencé dans un CHU parce que, comme les médecins, on passe également dans des très grands hôpitaux, mais comme assistant, hein, simple assistant. D'ailleurs, je raconte dans mon livre que ça n'a pas été simple parce que les grands directeurs me regardaient d'un œil, disons, plein de condescendance. Je me suis entendu dire deux fois « Monsieur, sachez que je ne parle pas avec un assistant ». Donc c'est quand même, des choses. Oui. Bon, je n'ai pas voulu rester en CHU. Il vaut mieux être le premier en Gaule que le second à Rome, c'est bien connu. Oui. Et puis, à la limite, c'est un peu le propre d'avoir été fils d'artisan, comme mon père artisan à Craponne. Moi, j'étais dans ma petite entreprise, avec quand même 1270 de bulletins de paye. On peut considérer que c'était une bonne entreprise, mais elle restait à taille humaine. Elle restait à taille humaine et donc ça me suffisait. J'ai jamais voulu aller vers des très gros établissements.
Alors, à la base, la formation, t'étais quoi, toi ?
Alors, formation, j'avais fait philo, philosophie et puis après, j'ai fait droit. D'accord. La philo m'a aidé beaucoup pour la culture générale et puis c'est un métier où il faut être très philosophe et pour garder son calme. Voilà, puis le droit, l'économie pour pouvoir gérer l'établissement. Et puis il faut savoir qu'il y a une école de formation qui est à Rennes qui s'appelait l'École nationale de la santé publique qui maintenant s'appelle l'École des hautes études de santé publique, c'est la même chose. Qui forment les directeurs d'hôpitaux en trois ans après une licence, une maîtrise et un concours national qui fait partie des concours de la classe un peu ENA. Donc c'est le même niveau.
C'est haut.
Donc il faut quand même. À l'époque, on était 2400 et on est rentré 140.
Oui. Voilà. Il y a un tri, hein, quand même.
Il y a un tri.
Il y a
un gros tri.
Alors bon, ton livre est très épais. Je pense que tu as raconté beaucoup de choses. Il y a un paquet d'anecdotes aussi, bien sûr.
Alors voilà, j'ai voulu... 39 ans. Je me suis dit, je ne vais pas faire un rapport sur ma carrière. Ça n'intéresse personne. J'ai voulu raconter beaucoup de faits humains. Donc il y a beaucoup d'anecdotes. Dans les anecdotes, il y en a des très amusantes, il y en a tordantes, et puis il y en a qui sont gravissimes, et il y en a qui sont, tristes, extrêmement tristes. Hein, voilà. Et donc j'ai voulu montrer l'ensemble du vécu, de ce que peut être le vécu d'un directeur confronté non seulement à des questions de budget ou à des questions de gestion, mais également à des questions humaines. Par exemple, à Manosque, et c'était encore un peu plus petit qu'Annonay, donc je pouvais le faire, à Noël, le directeur passait, donc c'était moi, je passais le jour de Noël dans tous les services avec le champagne. Alors, c'était pas du champagne, c'était la clairette de Die. Oui. La clairette de Die mousseuse.
Le geste.
C'est voilà, le geste. Mais j'allais voir tous les patients, les familles dans l'après-midi. Les familles venaient voir, le jour de Noël venaient voir leurs patients. Et je servais donc une coupe de clairette aux malades et à la famille. Et comment ça va, etc. Le personnel m'aiguillait, me disait attention, ne rentrez pas là. Là, c'est des gens, quelqu'un qui est en train de mourir. Oui. En maternité, ne rentrez pas dans cette chambre. Cette femme a perdu son enfant. Donc, je ne l'ai pas venir avec la bouteille pour fêter ça, évidemment. Voilà, mais il y avait des moments alors j'en rencontre juste un pour aller très vite qui a été je rencontre le jour de Noël, un jour de Noël à Manosque, je rencontre un vieil espagnol qui était attablé devant son plateau repas. Il y avait de la dinde au marron, les cuisiniers, on faisait une cuisine vraiment à Manosque, une cuisine chaîne chaude, vraiment très familiale. Il était très content, je parle un petit peu avec lui et bien comido, la comida es buena, etc., etc. Et bon, on parle comme ça tous les deux. Et il était très très content. Et la nuit, on m'appelle à 4h du matin. On me dit, le patient a sauté par la fenêtre, il s'est tué. Et ce vieil espagnol s'est retrouvé dans la nuit de Noël. Bon, dans la journée, ça allait. Il était avec son voisin. On lui a rendu visite. Il a eu ma visite. Hein. Et puis, dans la nuit, il s'est retrouvé tout seul la nuit de Noël. Eh bien, un geste désespéré, son voisin l'a vu se précipiter vers la fenêtre, et ouvert la fenêtre, il s'est jeté par la fenêtre, et il est mort. Et quand la famille espagnole est rentrée, je lui ai dit, écoutez, vous n'étiez pas là, je suis désolé. Et c'est un moment de solitude terrible, et nous, rien ne laissait présager que ces patients allaient sauter par la fenêtre. Voilà. Donc, voilà de quoi est fait un peu, peut-être fait la vie d'un directeur.
Oui, c'est compliqué, surtout que là, bon, il y a tous les services, puisqu'on a parlé de la maternité, donc là, c'est plutôt joyeux, en principe.
Hein. Maternité, en général, heureusement, ça reste...
Il y a quelques cas,
dans la majorité, c'est joyeux.
Ou des enfants qui décèdent, mais c'est quand même des enfants qui viennent au monde, donc il y a toujours une certaine joie dans la famille, quoi.
Oui, il y a ce qui est plus difficile dans les maternités, malheureusement ça se voit de plus en plus souvent, c'est des familles à problème. Que faire quand l'enfant qui est né, il faut le sevrer de la drogue, parce que ses parents lui ont filé, en consommant de la drogue, lui ont filé de la drogue. On a vu des petits enfants, des petits poids, comme disent les sages-femmes, c'est-à-dire à 800 grammes, 900 grammes, 1 kilo à peine, et qu'il fallait commencer par sevrer. Et ensuite, il fallait les enlever des parents. On ne pouvait pas faire autrement. Ah, donc là, c'était très difficile à gérer avec les services sociaux. Voilà. Mais heureusement, en règle générale, tout était quand même très joyeux. Oui.
Bon, alors on comprend bien que c'est un boulot de pas de tout repos, hein, parce que, comme tu disais, peut-être la philosophie a beaucoup aidé. Certaines fois, il va falloir être très, très philosophe.
Alors, dans les services d'urgence, je raconte dans mon livre et à Manosque notamment tous les épisodes d'insécurité et les situations de violence. Alors, à Manosque, j'en ai connu des situations qui étaient dantesques. Hein. J'ai connu une fois une situation où il a fallu 11 gendarmes et policiers pour séparer un groupe de gitans et un groupe de maghrébins qui se battaient. On a une jeune infirmière qui était enceinte, a échappé de peu à un des protagonistes qui voulait la poursuivre avec un coutelas. On a la secrétaire à l'entrée, on l'a juste tiré en arrière au moment où la batte de baseball allait lui prendre le crâne. Voilà, ça a été pendant 4h30, on s'est fait insulter, on s'est fait menacer, ça a été terrible. Il y a des fois, c'est tragicomique. On a eu aussi à Manosque, je le raconte aussi dans le livre, un souteneur qui était une balance, un proxénète aixois marseillais, parce que Manosque, c'était une ville ouverte,
oui.
Et tous les truands se mettaient au vert à Manosque, et lui, il était protégé par la police, parce que ça devait être une balance, et donc ça a été un peu amusant, mais c'était inquiétant, parce qu'il était gardé par la police, il faisait les comptes tous les soirs avec la mère Macrel, et on l'entendait crier des insanités, comment une telle, elle a fait que ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fout, etc. Et puis je l'ai vu revenir un mois après, qu'une balle de Kalachnikov dans le cou, et on m'a appelé à 4h du matin pour faire l'inventaire des poches dans lesquelles il y avait de la drogue, de 40 000 francs en argent liquide, etc. On a vu d'ailleurs devant les urgences, eh bien, les gars qui l'avaient assassiné tranquillement faisaient changer les armes de coffre de voiture sans se gêner. À Manosque, j'ai vu descendre, alors je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu, je suis sorti, mais je ne l'ai pas vu descendre quelqu'un en règlement de compte qui s'est fait devant l'hôpital, au pistolet.
Ah,
personne, la voiture s'est arrêtée, le gars est venu, a tiré, a descendu, puis comme il avait la conscience professionnelle du tueur, il est allé retourner à sa voiture, il a été léché à notre chargeur, puis très tranquillement il l'a rechargé, puis il a achevé parce que il avait le sens du travail bien fait. Voilà. Ben ça c'était c'est les choses qui se passaient et qui étaient dans l'environnement immédiat de l'hôpital.
Ah oui, ben on voit tout, hein, surtout quand comme tu dis Manosque, pas très loin de Marseille, donc on connaît Marseille, hein, donc.
C'était dantesque. Hein.
Ouais.
Et ouais. À Arles, j'ai travaillé aussi à Arles. À Arles, pendant les férias d'Arles, la féria du riz.
Il y avait du boulot là.
Ah là, il y avait du travail. Et je louis les services d'un vigile. Et j'ai eu la chance d'avoir un vieux vigile avec des chiens. Alors les chiens tenaient en respect les gens. Mais le vieux vigile était un homme qui venait vers les jeunes, qui étaient un peu éméchés, il venait vers eux, il parlait avec eux et tout, il les calmait et ça se passait bien.
Oui, alors bien sûr, puis là, on tombe dans le problème de l'alcoolémie, quoi. Donc des gars qui. Des coma éthyliques, ça arrivait, ça.
Ah, tout le temps. Tout le temps. Parfois, ils cassaient tout. Parfois, on était obligé de les laisser dans une pièce, un des box des urgences. Ils cassaient tout. On ne pouvait pas faire autrement.
Ouais.
On ne pouvait pas faire autrement. Hein. Malheureusement, c'était difficile. Moi, il m'arrivait de participer à l'hôpital de Vienne à tenir à quelqu'un. À l'époque, j'étais jeune et inconscient. Mais tenir quelqu'un en force sur son brancard en attendant que la police arrive pour l'embarquer. J'ai parfois fait pas le coup de poing, mais j'ai tenu à distance dans un service un malade qui était venu et qui voulait frapper quelqu'un, et donc je l'ai fait reculer jusqu'au hall des ascenseurs pas à pas. On n'est pas arrivé tout à fait aux mains, Voilà, heureusement, les gendarmes sont arrivés. Au moment où il arrive, disons, à la porte des ascenseurs, les gendarmes sont sortis de l'ascenseur, l'ont embarqué. Voilà. Mais bon, j'avoue que j'étais un peu inconscient d'être tout seul face à des problèmes comme ça. Mais des problèmes comme ça, il faut savoir que ça arrive et que ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment, oui.
Ouais, ouais. Donc on voit que c'est pas de tout repos, hein. Donc on est aujourd'hui avec Patrick Charrier, ex-craponnais, hein, qui était directeur d'hôpital puisqu'il profite d'une retraite bien méritée maintenant.
Hein. Ah oui, bien méritée, mais j'ai laissé l'hôpital. J'ai écrit et c'est le livre qui scelle une partie de ma vie. Maintenant, je fais tout à fait autre chose.
Monsieur le directeur, justement, je voulais vous voir. Ça, c'est on peut dire que c'est la phrase type que tu as entendue des milliers de fois.
Ah, des milliers de fois, mais j'ai toujours voulu rester une fois de plus disponible. C'est comme ça que je suis arrivé. Voilà. Et on parle beaucoup, j'ai lu les journaux ces temps-ci, on parle beaucoup encore de réforme de la gouvernance des hôpitaux. Là, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que la gouvernance des hôpitaux, moi, je travaillais avec les médecins. On se réunissait avec tous les chefs de service chaque semaine à Nonnet, tous les mercredis matins, on prenait une heure et on parlait de tout et on décidait de tout ensemble. Donc à partir du moment où on veut bien le faire, et on le faisait en dehors de tout texte, c'est-à-dire on n'a pas attendu qu'il y ait une réforme, etc. On s'est assis sur tous les textes pour le faire. On l'a fait avec les médecins, on était d'accord entre nous et on gérait l'hôpital, le directeur, l'équipe de direction et les chefs de service géraient ensemble l'établissement. On faisait un compte-rendu par semaine. Ça a étonné d'ailleurs tous mes collègues que je fasse ça, mais les choses marchaient et l'hôpital marchait. Voilà.
Alors c'est peut-être un peu ce qui manque dans certains hôpitaux.
Peut-être, oui. Je crois que quand on fait ce métier, il faut accepter. Il faut se dire que le facteur humain est primordial. Est vraiment primordial et il ne faut pas avoir peur d'aller au contact du personnel, des patients, des médecins. Je pense qu'il faut parler. Il faut parler. J'ai vu à Arles avec un directeur qui était une sommité de la profession, qui écrivait des tas d'articles dans les revues professionnelles, qui était hyper compétent, qui était docteur en droit, qui avait des diplômes supérieurs d'économie, mais il avait des rapports absolument tendus, des rapports conflictuels permanents avec les médecins. Bon. Et ils ont été très surpris. Ils ont été très surpris qu'un de ses adjoints accepte de faire le projet médical avec eux. Je leur ai dit, mais on va travailler ensemble, on va le faire ensemble. Et le plus surpris à la sortie, ça a été le directeur lui-même. Là, j'étais directeur adjoint, premier adjoint, mais je n'étais pas le chef d'établissement. Et quand on est là pour lui voter en commission médicale, il s'attendait à ce qu'il y ait une levée de bouclier, qu'on discute. Et non, tout le monde a dit, mais non, on l'a fait ensemble. Monsieur le directeur, on l'a fait ensemble, on est d'accord, on ne va pas discuter. On est d'accord puisqu'on l'a fait ensemble. Et voilà, c'est passé comme une lettre à la poste.
Ouais. Donc toi, tu étais directeur de l'hôpital et tu avais beaucoup de sous-directeurs. Comment ça marche là ?
Oui, on a une équipe de direction. Alors, sur l'état de l'hôpital, par exemple, à Nonnet, l'équipe classique d'un centre hospitalier général, j'avais un DRH avec moi.
Ouais.
J'avais un directeur des services économiques, j'avais un directeur des finances et de la gestion des malades. J'avais également un directeur des soins qui était en général un soignant. Hein, jamais un administratif, toujours un soignant. Et puis j'avais un directeur des services techniques qui était un ingénieur.
D'accord.
Et donc quand je faisais des réunions de direction, on faisait une réunion de direction par semaine, tout le monde était là et on parlait également de tout. Donc tout le monde était au courant de tout et tout le monde savait ce qui se passait et mes adjoints pouvaient donner leur avis. Et j'essayais quand même. Il me disait, Patrick, fais attention, il ne faut pas faire ça parce que ceci, pas cela. Bon, alors parfois je suivais, parfois je ne suivais pas, puisque c'est moi qui décidais. Et là, j'étais jaloux, comme je leur disais toujours, je ne suis pas jaloux de mon pouvoir, je suis jaloux de mes responsabilités. Ne m'engagez jamais dans une histoire sans que j'ai été prévenu et sans qu'on en ait parler et décider ensemble. Après, on décide ensemble, c'est moi qui prends la responsabilité. Voilà. Mais je ne suis pas jaloux de mon pouvoir. Vous pouvez parler avec moi de tout. Et ils avaient l'habitude de pouvoir parler de tout. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivait quand même à régler la majorité des problèmes sans faire la guerre, sans qu'il y ait de guerre interne à l'établissement.
Alors oui, tu disais que tu avais un chef des services techniques, oui, parce qu'on parle beaucoup des malades et tout, mais il y a quand même un paquet de matériel dans un hôpital. Hein.
Donc... Alors, un hôpital, les gens ne le savent pas. Un hôpital, c'est un assemblage d'entreprises. Si on prend la buanderie, la blanchisserie, c'est une entreprise industrielle. Nous, on faisait quand même 3,5 tonnes de linge par jour. Donc, il y a 20 personnes qui y travaillent. C'est une entreprise industrielle avec un process industriel très étudié. Très étudié, qui a coûté d'ailleurs, j'avais refait la blanchisserie, on avait ce process, si vous voulez, passé également par le contrôle, on passait comme dans les aéroports, hein, tout au scanner, ouais. Pour voir que rien ne traîne ni matériel, ni stylo, le stylo c'était rien, mais pas de matériel. Et c'était un process très, très, très complexe. Par ailleurs, moi qui étais fils d'électricien, j'avais une entreprise industrielle avec un chef bien sûr des services techniques. Il avait à sa disposition 5-6 électriciens, il avait des plombiers, des thermiciens plombiers, parce que le plombier ne suffisait pas, on avait deux menuisiers, dans cette équipe. Puis on avait également un génie biomédical très important, c'est-à-dire un ingénieur biomédical, un ingénieur spécialisé dans tout ce qui est le matériel électronique biomédical. Les médecins n'en voulaient pas au départ, puis quand j'ai recruté quelqu'un qui était un agent absolument merveilleux, et qui d'ailleurs s'est marié avec une de mes adjointes, c'est un couple tout à fait charmant, et maintenant nous sommes très très amis. Un ingénieur biomédical, c'est vital pour un établissement, c'est vital. C'est lui qui faisait les achats quand même du scanner, mais il le faisait avec les médecins. Mais il savait dépiauter, il savait comprendre, et c'est lui qui, si vous voulez, branchait le décodeur pour lire complètement une offre médicale, une offre sur un matériel médical. Les médecins ne savent pas tout. Un médecin sait soigner, il faut lui demander de faire son métier. Et puis il faut qu'il soit accompagné par des techniciens pour le biomédical, par des administratifs pour l'aider dans la partie administrative. Voilà, et il faut que les médecins puissent, il faut les aider, les assister dans leur métier, dans ce qu'ils ne savent pas faire. Il ne faut pas laisser les médecins diriger les hôpitaux, ce n'est pas leur métier. On leur a appris la médecine pour soigner des patients. Et ce n'est pas leur métier de savoir gérer un budget, gérer des personnels. Ça, certains savent faire pour gérer du personnel, d'autres sont des catastrophes ambulantes au plan du. Ils ne savent souvent pas gérer leurs équipes. Donc, je préfère, la première chose, c'est demander à des médecins d'être compétents dans leur métier, d'avoir des bons néphrologues, des bons pneumologues, des bons gastro-entérologues, des cancérologues, etc. Et de pouvoir gérer. Alors, il y a une chose que je faisais avec eux, et on travaillait beaucoup ensemble, c'était le recrutement médical se faisait direction médecin. On travaillait de main dans la main et pour pouvoir recruter. Et parfois, je leur disais, celui-là, il ne faut pas le prendre. Je me rappelle une fois, un médecin me dit, j'ai trouvé le bon candidat. Je vous êtes sûr ? Alors moi, je prends des renseignements sur lui et j'ai une tactique qui marche très bien, une stratégie, c'est de prêcher le faux pour avoir le vrai. Ça marche 2 fois sur 3 ou 3 fois sur 4. Et je dis, j'ai vu tel candidat, vous savez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait un caractère impossible. Ah, je vois que vous l'avez bien jugé, parce qu'effectivement, le candidat éliminé, ouais. On est passé à quelqu'un d'autre. Il était compétent. Mais c'était quelqu'un qui allait nous mettre l'hôpital, enfin son service en tout cas, c'était un chirurgien orthopédiste, allait mettre le service à feu et à sang. Donc il ne fallait pas. Voilà, il faut savoir être complémentaire entre médecin et administrateur.
Alors aujourd'hui, on reçoit dans cet invité du jeudi Patrick Charrier, directeur d'hôpitaux, puisqu'il en a fait plusieurs. Le titre de son livre, c'est « Monsieur le directeur, justement, je voulais vous voir ». Eh bien, on va faire une petite pause là, parce qu'il faut qu'il se reprenne, puis peut-être vous aussi qui écoutez. Alors bon, c'était pas bien compliqué à trouver, hein, ce qu'on allait passer, puisque c'est Ouvrard, hein, qui était pas bien important, donc lui, il avait vraiment besoin de l'hôpital.
Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter,
Je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trac. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias à plat plat, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi, quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas laid, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas trac. Ah mon Dieu, c'est embêtant, je suis pas bien content.
Voilà, bien quand on n'est pas bien portant, c'est vrai qu'on va souvent à l'hôpital, ou on essaye du moins, parce qu'on en a besoin. Donc cet après-midi, dans l'invité de jeudi, on reçoit Patrick Charrier, je vous le disais, monsieur le directeur, justement, je voulais vous voir. On va parler des EHPAD, parce que pendant la chanson, on a parlé, parce qu'il y a beaucoup, on entend plein de choses. Hein. Et souvent, tout est son contraire, parce que bien sûr, il y a toujours des gens qui ont tout eu. Mais avant, je voudrais, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, alors, nous, c'est un peu différent, mais c'est un peu comme la radio. C'est 24 heures sur 24.
Ah oui.
Et c'est 365 jours par an. Nous, c'est un peu plus délicat. Nous, c'est moins grave.
On est directeur même dans sa salle de bain.
Ah oui.
Voilà, c'est comme ça. Et puis, on est directeur même quand on n'est pas de garde. Moi, je raconte dans le livre, une fois, on m'appelle à minuit. Je sortais du cinéma, on me dit, monsieur le directeur, vous n'êtes pas de garde, mais voilà, l'anesthésiste remplaçant qui fait la garde pour tout le week-end est bourré. Qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, ben, je vais à l'hôpital. Je me rends compte effectivement que le gars, en fait, il avait bu, pour travailler, c'était un médecin alcoolique, et l'alcoolisme frappe tout le monde. L'alcoolisme, on est tous égaux devant l'alcoolisme, et c'est pas parce qu'on est médecin qu'on y échappe. C'est pas parce qu'on est bac plus 15, bah 20 ou 30 ou 50 qu'on échappe à l'alcoolisme. L'alcoolisme détruit. Il détruit tout le monde, tous les individus, toutes les personnes, hommes ou femmes, et quel que soit leur niveau. Et lui, il avait besoin d'avoir bu pour pouvoir travailler. Et donc ça a été difficile, il a fallu que je trouve à minuit quelqu'un d'autre. J'ai eu beaucoup de chance, je me suis adressé à un anesthésiste de la clinique voisine, on a eu des bons rapports à donner avec la clinique voisine. L'anesthésiste, qui était une femme qui devait partir un week-end, a dit, écoutez, je ne vais pas vous laisser tomber, je viens à l'hôpital et je prends la garde. Ben, je dis, madame, chapeau bas, merci infiniment. Et puis je vais voir l'anesthésiste, c'est un pauvre homme, il m'a raconté toute sa vie, il s'est mis à pleurer. Oui, c'est bien, mais moi, par contre, mon problème, c'était pas, j'étais pas le psychologue, je pouvais pas l'aider pour lui, mais il fallait bien en même temps que les malades soient pris en charge par quelqu'un qui ne sente pas le pinard à plein nez, quoi.
Ouais,
voilà, c'est ça. C'était ça
ouais,
le problème.
Voilà, ben ça arrive, ouais, c'est des choses.
Ça arrive souvent.
Souvent.
Ah, ah ouais. Oui.
Puis c'est peut-être un métier difficile aussi. Hein.
Mais le métier de médecin, notamment l'alcoolisme, a frappé notamment dans les services de chirurgie, anesthésiste et chirurgien. Parce que je pense qu'ouvrir le ventre de ses semblables ne facilite pas la santé mentale. Et, parfois, et donc, moi, j'ai connu, hein, pas, que ce soit à Annonay, que ce soit à Annonay, Manosque, Vienne, j'ai connu des médecins, des chirurgiens alcooliques. Vraiment, certains qui étaient inquiétants. Qui était en fonction. Et c'était quand même un gros problème. Ce qui était un gros, gros problème. Il y en a même un, de temps en temps, il faisait un délirium tremens, il se faisait hospitaliser dans son propre service, et puis il se couchait, et voilà, et puis quand il avait repris, il reprenait son service. Bon, c'est impensable. C'est impensable.
Hein. Oui, puis c'est dur à gérer, non ?
C'est très dur.
Oui, mais tu peux le faire virer, ça marche comment, là ?
C'est très difficile, parce que les médecins ont un statut très protecteur, donc virer un médecin pour l'alcoolisme, tout le monde va me dire, mais non, c'est une maladie, etc. Et puis, il faut qu'il accepte la maladie. La seule chose où on peut arriver à virer un médecin, c'est quand la communauté médicale dans son ensemble, responsable, décide d'arrêter quelqu'un. Et à ce moment-là, ils le prennent en charge et ils lui disent, tu arrêtes. Il y a un hôpital où j'ai vu des anesthésistes interdire l'accès du bloc opératoire à un de leurs confrères en disant, tu ne viens plus. Parce qu'il était carrément. Parce qu'il était dangereux.
Ouais.
Hein, ça, il était dangereux. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. J'ai vu également, je raconte dans le livre, un médecin gynécologue qui était kleptomane. Qui était kleptomane. Donc, il s'est retrouvé un jour à la police parce que j'ai porté plainte. La police est allée chez lui. Et puis il m'a appelé, ils étaient complètement abattus. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Il dit, monsieur le directeur, il faudrait que vous veniez avec un camion. Je dis, pourquoi un camion ? Mais vous ne vous rendez pas compte ? Le garage est plein. Toutes les chambres sont pleines. La salle à manger est pleine. Le gars avait stocké du matériel médical, des médicaments, depuis des années. Il était malade dans sa tête. Ouais. Hein. Il avait, voilà. Et donc c'est terrible. Ils avaient tout sorti devant sa maison, dans le lotissement, devant les voisins, sa femme et sa fille hurlaient. C'était une situation absolument dantesque. Et puis le lendemain, bon, il a passé la nuit au poste. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez rentrer chez vous ? Vous voulez retourner à l'hôpital ? Il dit non, je retourne à l'hôpital, je vais prendre mes affaires. À l'hôpital, le président de la commission médicale est venu le voir, il m'a dit, écoute, tu ne peux pas rester chez nous. Tu ne peux pas rester. Ouais. Tu t'en vas, gentiment, mais tu t'en vas. Et il est parti.
Ouais,
je raconte un autre cas.
Voilà, donc toujours avec Patrick Charrier qui vient d'écrire ce livre, monsieur le directeur. Justement, je voulais voir, donc on a parlé un peu des problèmes. C'est des gens comme les autres en fait. Hein. Dans la société civile, il y a des alcooliques, il y a des kleptomanes. On peut les retrouver dans...
Heureusement, ils sont quand même une minorité, c'est une minorité. À côté de ça, j'en parle aussi dans mon livre. Je parlais par exemple du docteur Hamel, je l'ai cité même nommément dans mon livre. J'avais connu à Rouen, c'était un bourreau de travail. Ce type a fait fonctionner le bloc opératoire de l'hôpital de Givors, puis après celui de l'hôpital de Vienne, quasiment seul. Il était de garde tout le temps. Et c'était quelqu'un qui était d'un sérieux. Alors, c'était Buster Keaton, c'est l'homme qui ne rit jamais, comme au cinéma. Il riait pas, mais par contre, il était d'une compétence, d'une fiabilité et d'un dévouement total auprès de ses patients. Je peux vous raconter aussi un de mes médecins, chef de service. Bon, il avait mauvais caractère. Bon, de temps en temps, je lui ai dit, écoutez, vous la fermez un peu parce que vous commencez à m'énerver et tout. Le personnel aussi, il n'était pas toujours très, très gentil avec ce personnel. Mais le jour où il allait partir en vacances, le petit car VV était dans la cour, sa femme, ses enfants, tout, ils avaient chargé les bagages. Puis le collègue tombe malade. Eh bien, il a déchargé le car VV. Il m'a dit, écoutez, il n'y a pas de souci, je reprends, hop, point. Voilà, il faut quand même... C'est ça aussi la condition des...
Il faut en parler, ça aussi.
Hein. Il faut en parler. Et pareil, chez le personnel, vous avez des agents qui vous disent, écoutez, l'infirmière qui m'a dépanné un jour de Noël, qui a dit, monsieur le directeur, je ne vais pas laisser mes collègues, c'est le jour de Noël, j'avais toute la famille là, mais ça ne fait rien, j'arrive, je viens. Bon, bien sûr, je lui ai fait une lettre de remerciement, de félicitations, je suis allé la voir. Moi, je tenais beaucoup quand j'étais de garde et que j'allais rappeler quelqu'un. D'abord, c'est toujours très pénible, autant pour celui qui rappelle un agent qui va pour lui demander de travailler pendant un de ses repos. C'est pénible autant pour celui qui rappelle, pour celui qui vient. Mais moi, je me déplaçais pour aller le remercier personnellement. Je trouvais ça important parce que c'est un effort énorme qu'on demande au personnel. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être pris pour des billes.
Ouais, c'est ça. Hein,
c'est parce que si on les prend pour des billes, ça ne va pas durer longtemps. Hein, parce que la fois suivante, vous ne les trouvez plus. Hein,
ouais.
Hein, voilà. Donc après, si vous les cherchez, c'est 36-15 et puis vous cherchez si vous voulez. Hein.
Oui.
Voilà, bon. Non, mais tout ça, effectivement, c'est pour ça que je dis que le facteur humain est quand même le plus important. Le plus important.
Enfin, moi, j'ai bien sûr passé par l'hôpital, hein, puis j'ai été opéré des genoux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais, moi, ravi. Hein, j'étais, les infirmières étaient charmantes. Alors, je pense qu'aussi, ça vient un peu du caractère du malade, hein, parce qu'il ne faut pas les embêter toute la journée quand on n'en a pas besoin et tout. Hein. Mais quand je suis parti, le premier genou, je leur ai écrit une lettre parce que j'ai dit, écoutez, c'est un sacerdoce pour moi. Mmh. Vous êtes... je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que vous êtes tellement aimable, toujours, surtout qu'il y en a qui étaient pénibles quand même. Hein. Moi, j'ai été opéré une année de la sécheresse, qui faisait très chaud hein, dans les hôpitaux. Bon, il fallait, les gens un peu âgés, il fallait doucher, il fallait... Mais il y en a, comme elle dit, on sort de la chambre, ils ressonnent. Alors, à un moment, ça gonfle, quoi.
Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr.
Mais ça, on ne sait pas toujours, hein. Il faut l'avoir vécu, quoi, je veux dire. Hein,
pour, oui, exactement.
Donc, il faut quand même avoir du caractère. Si un jour, elle s'énerve, on peut le comprendre, quoi, je veux dire. Hein, c'est vrai.
Oui.
Ouais, c'est pour ça, moi, j'ai toujours dit, je leur ai dit chapeau, hein, pour faire ce métier. Il faut vraiment... aller au-delà.
Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ce métier.
Il ne faut pas faire ce métier, voilà. Ouais, c'est ça.
C'est tout. Hein. Vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez.
Bon. Voilà, ça nous permet justement de, d'enclencher sur les EHPAD, puisqu'on en parlait. Alors là aussi, les EHPAD, il y a des gros titres dans les journaux. Il y a des EHPAD où les anciens sont, je dirais pas, torturés, le mot est fort, mais où ça ne se passe pas très bien, quoi.
Alors, moi, j'ai vu l'évolution et c'est un peu l'intérêt de mon livre parce que je parle trois fois, dans trois postes différents, de la maltraitance. À Vienne, j'ai eu un cas unique dans un EHPAD qui était, vous n'auriez pas mis votre chien dedans. C'était l'EHPAD, la vieille maison de retraite de Vienne. Les malades étaient en dortoir, derrière des cloisons en bois. Le mourant mourait et on entendait le râle du mourant dans tout le dortoir. Celui qui rôtait, qui éructait, qui criait, tout le monde en profitait. C'était des conditions infernales. Mais là, j'ai découvert la maltraitance à Manosque le jour où une famille d'amis que j'ai, des gens que je connaissais, sont venus me voir et ils m'ont dit, voilà, monsieur Patrick, il me connaissait bien, il me dit, tu sais, on pense que notre aïeul, dans ta maison de retraite, on pense qu'il est mort de faim. Je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Il dit, on pense qu'il est mort de faim. On lui a apporté son plateau repas, le plateau repas repartait, il ne le prenait pas, personne ne s'occupait de le faire manger et il est mort. Et bon, alors je me suis... Alors, le personnel s'est défendu en disant, mais non, c'est pas vrai, etc. En même temps, ces gens, je les connaissais, j'avais confiance. J'ai un doute. J'ai un doute terrible que je ne résoudrai pas, bien entendu. Hein, que je ne résoudrai pas. Après, c'est à Nonné qu'il y a eu un déclenchement qui s'est fait dans les années 2000, on va dire, à partir de 2007, 2008, 2010 même. On a obligé le personnel des EHPAD à changer d'équipe, c'est-à-dire on a mélangé les équipes pour éviter qu'il y ait un peu des dynasties d'équipes où les gens restent ensemble pendant des années et du coup, personne ne dénonce ce qui se passe parce qu'on a peur du collègue avec qui on travaille et on est appelé à travailler toute sa vie, ou presque. Donc, en mélangeant cette équipe, un an après, on a vu arriver des déclarations et on était nous les directeurs, l'équipe direction, on est, et l'équipe soignante également, l'équipe d'encadrement soignante, nous avons été les premiers surpris, disons, sur qui c'est tombé. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on pensait, des agents, on pensait que c'était des agents fiables, méritants, etc. Et on s'est aperçu que c'était des maltraitants. Des maltraitants, maltraitants. C'est-à-dire, il y en a un qui avait pris le premier qu'on a eu comme ça, il frappait une personne âgée, il l'avait pris en grippe. Et ses collègues ont craqué le jour où ils ont entendu la claque dans le couloir et ils ont vu la trace des cinq doigts de la main sur la fesse de la patiente qui était toute nue, qui était complètement d'ailleurs dans le cirage, hein, qui n'aurait jamais pu dénoncer ce qui s'est passé. Donc elle en profitait, elle est prise en grippe et elle a frappé. Donc elle a dénoncé ce qui s'est passé. Ça a été très mal vécu par d'autres. Les syndicats s'en sont mis. Certains ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Mais finalement, on a, si vous voulez, résolu le problème. La personne a été donc, je l'ai licenciée. Elle a fait un procès qu'elle a perdu, donc elle n'a pas insisté. Elle n'a pas insisté. Et là-dessus, il y en a eu deux, trois autres cas, et toujours à chaque fois, je dois la raconter comme cela, je le raconte en détail dans mon livre, c'est des agents dont on avait une opinion tout à fait... Ah oui, confiance totale. On pensait que c'était des agents qui étaient des agents de confiance. Et on s'est aperçu que c'était vraiment des agents maltraitants. Et c'était. Voilà. Et donc, ça a été difficile à gérer, mais notre stratégie, c'était d'entendre tous les collègues, tous les collègues de l'EHPAD, un par un, en aparté, devant témoins. On faisait signer leur déclaration comme si c'était au commissariat pour avoir un aperçu complet, disons, du comportement. Et c'est arrivé, donc ça a été du licenciement. Il y a quelqu'un qui, juste avant sa retraite, était vraiment maltraitant. Je l'ai passé en conseil de discipline. On l'a mis à pied. Mais comme elle allait partir à la retraite peu de temps après, bon, on a laissé, elle a eu une sanction assez légère. Puis de toute façon, ça ne servait à rien, puisque, je veux dire, un mois après, elle a liquidé ses congés pour partir à la retraite. Donc on l'a arrêté juste avant. On en a eu une autre également. Là, par contre, également, on a dû la licencier. Là, je ne faisais pas de cadeau dans ce cas-là. Et puis j'avais dit au syndicat. Puis là-dessus, ils avaient compris. Et je dois reconnaître, hein, CGT, CFDT, etc. Et on était unanimement d'accord. La CGT notamment m'avait dit, monsieur le directeur, c'était comme ça. Et c'était comme ça également à l'hôpital de Vienne. C'était comme ça partout. Ils m'ont dit, quand il y a des cas comme ça, monsieur Charrier, on est avec vous et on ne défend pas les cas indéfendables. S'il y a des agents qui ont fauté grave, de manière grave vis-à-vis de patients, on sera avec vous. Et donc, je le dis parce qu'on dit souvent la fonction publique, les fonctionnaires, on ne peut pas les virer. Oui, mais là, je pense dans le milieu hospitalier, il y a quand même des syndicats de personnel qui sont quand même... J'ai toujours eu affaire, c'est peut-être un coup de chance, hein, plusieurs hôpitaux, j'ai eu des syndicats vraiment très responsables. Parfois, même, c'était presque amusant parce qu'il y a des agents qui avaient fauté, qui passaient un conseil de discipline et les syndicats étaient plus... pas violents, mais plus dur que moi. Je dis, écoutez, parfois je trouvais des circonstances atténuantes, mais voilà, on travaillait ensemble et on prenait les bonnes décisions. Mais la maltraitance en EHPAD, c'est une réalité, il faut en être conscient. Et puis je crois que là-dessus, il faut que le gouvernement a des gros efforts à faire, parce que n'oublions pas un fait tout simple qui doit être présent à l'esprit de chacun, c'est que la population française prend 3 mois de vieillissement supplémentaire dans la vue chaque année. C'est-à-dire, l'augmentation de l'espérance de vie est de 3 mois de plus. Et là, dans mon livre, je suis extrêmement sévère avec les 35 heures. Quand on a fait les 35 heures, ça a été une bêtise monstrueuse. Je dis que les gens qui ont décidé ça pour les hôpitaux, on devrait les enfermer. J'écris dans le livre qu'on devrait les enfermer et les faire travailler dans un EHPAD jusqu'à leur mort. Je suis un peu dur, parce que là, on a diminué le temps de travail au moment où il aurait fallu l'augmenter. Non pas augmenter le temps de travail journalier, mais augmenter les effectifs. On a eu une augmentation des effectifs pour les 35 heures qui était minable, qui était très insuffisante, au moment même où on avait besoin d'effectifs supplémentaires à 39 heures, d'effectifs supplémentaires pour faire face à la charge de travail qui n'a fait qu'augmenter dans les hôpitaux depuis 30 ans, 40 ans, et puis c'est pas fini. Donc là, effectivement, je comprends, moi, qu'actuellement, il y a des mouvements dans les EHPAD, qu'il y a des mouvements. C'est normal, c'est inévitable, parce qu'effectivement, la population vieillit et la charge de travail augmente et les personnels n'en peuvent plus. Mais ça coûte extrêmement cher. Il faut savoir ce que veut la société. Il faut savoir ce qu'on veut.
Eh oui, voilà, la question est posée, hein. Donc oui, et puis on le voit bien, hein, quand on va dans les EHPAD maintenant, quand on dit, oh là, celle-là 98, celle-là a 100 ans, lui il a 95. C'est vrai que c'est passé avant. À 90 ans, c'est un vieillard, quoi.
Oh, écoutez, ouais. le premier pensionnaire à Vienne qui a eu 100 ans, on a fait une grande fête, le sous-préfet est venu, ouais, etc. Ah, oui. Bon, maintenant, on ne fait plus rien, qu'il y en a tellement. Tout le monde a 100 ans. Ouais. Tout le monde arrive à 100 ans. Ouais. Dans le livre, je raconte une histoire amusante, c'est qu'un jour, il y avait l'évêque qui a voulu visiter la maison de retraite, c'était à Manosque, Et il y avait je lui présente notre centenaire qui s'appelait Madame Cambu. Je me rappelle très bien d'elle. Et je lui dis, Madame Cambu, voici l'évêque des Alpes de Provence qui vient vous voir. Ou un évêque, elle m'a dit, elle s'est mise à lui embrasser la main, à lui faire plein de bisous sur la main. Elle dit, un évêque, ça va me porter chance au loto.
Ah oui, il y a des
le pauvre évêque, il ne savait pas où se mettre.
Bon, il y a des choses marrantes.
Oui, des choses amusantes. Ouais. Il y a des choses amusantes. Mais il y a des choses navrantes. Je raconte aussi quand même qu'une nuit, bon, la mort d'un vieux, ça n'intéresse pas grand monde. Donc un médecin n'a pas voulu se déranger. Et moi qui connaissais cette personne âgée, qui connaissais mes résidents à l'EHPAD, j'ai voulu quand même, le lendemain matin, j'ai voulu aller la voir à la morgue et puis un peu lui rendre un peu, comme si c'était un peu ma mère. Hein.
Ouais.
Et j'ai été étonné de la trouver chaude. Et alors mon épouse est un médecin, j'ai dit, est-ce que c'est normal que les mains soient encore chaudes à 9h du matin quand on est censé être mort à minuit? Elle m'a dit, à mon avis, non. Normalement, quand on est mort, le sang commence par quitter les extrémités.
Ah, d'accord.
Et donc je n'ai jamais su à quelle heure elle était vraiment morte quand je l'ai vue. Mais aucun médecin n'est venu constater le décès, ils n'ont pas voulu se déranger.
D'accord.
Et c'est l'infirmier ou le cadre du NU qui a dit, bah, elle est morte, vous la mourrez. Ouais. On l'a envoyée à la morgue. Est-ce qu'elle était vraiment morte quand elle était arrivée à la morgue? Ne sais pas.
Ouais.
Ça, je ne le sais pas. Je ne le saurai jamais.
Voilà, donc Patrick Charrier est avec nous, là. Monsieur le directeur, justement, je voulais vous voir. Alors, peut-être pour terminer, parce que c'est vrai que ça passe très vite, le temps.
Oui.
Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis, on n'oppose pas, mais c'est compliqué. Les relations entre l'hôpital public et l'hôpital privé.
Alors, écoutez, moi, j'étais dans les précurseurs à Manosque. Quand j'ai quitté Manosque, il y avait une clinique privée commerciale dans l'hôpital. Et ça, c'était une des premières en France, hein, une des toutes premières. Écoutez, c'est très simple. Le payeur est le même, c'est la Sécu, c'est les patients. Bon, donc il faut déjà avoir conscience de ça. Simplement, le mode de paiement du médecin n'est pas le même. Le médecin en clinique privée est payé à l'acte et en l'hôpital, il est salarié. Sauf que les choses se sont beaucoup rapprochées, d'ailleurs, avec la tarification à l'activité. Bien. Moi j'avais proposé à la clinique de Griou-les-Bains à côté de Manosque, je lui ai dit vous êtes une petite clinique, vous avez 45 lits, c'est pas grand chose, la sécu va absolument vous fermer, vous venez à l'hôpital, vous venez simplement, moi je vous donne des locaux à l'hôpital. On avait trouvé des locaux, on a recréé une maison de retraite toute neuve et la maison de retraite qui était à côté de l'hôpital, qui était à côté de la chirurgie, il y avait une passerelle. J'ai dit, écoutez, il n'y a qu'à mettre la clinique médicale à côté de la chirurgie de l'hôpital et de la médecine de l'hôpital. Et donc là, ils l'ont accepté. On a fait un joint venture comme ça, public-privé. Pour l'hôpital, ce que gagnait l'hôpital, c'est que toute la radio de la clinique se faisait dans la radio de l'hôpital.
Ouais.
Hein? Donc ça permettait de mieux amortir les coûts. Et donc, d'un point de vue strictement économique, c'est toujours avantageux. Je crois qu'il faut passer par-dessus les considérations idéologiques. Alors, soit on est dans l'idéologie, le service public, c'est le service public. Moi, je veux bien, j'ai toujours défendu le service public. Mais écoutez, je veux vous raconter une petite histoire. Un de mes collègues de promotion était un grand communiste devant l'éternel. Philippe Domi, il a terminé, c'est un garçon brillant puisqu'il a été le major de notre promotion, il a terminé, il a été deux fois directeur général de CHU, d'un excellent copain. Et on m'a dit que quand j'ai fait mon projet à Manosque, on m'a dit qu'il faut rencontrer un de vos collègues qui est un spécialiste des relations publiques-privées. Et quand on ne m'a pas voulu me dire son nom, j'arrive au ministère et je trouve Philippe Domi. Bon, il ne m'entend pas, maintenant il habite Montpellier, c'est un grand ami. Et je dis donc, Philippe, tes idées à toi, à l'époque, quand tu étais à l'école, communiste, il y avait tout ce qui était public, c'était bien, tout ce qui était privé, c'était le diable, etc. Il a souri, il m'a dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et lui, il avait fait, avec une clinique, dans le nord de la France, il avait fait, pareil, un accord économique, et il les avait fait une structure commune. Alors moi j'ai fait la première structure commune, un groupement d'intérêt économique, public-privé pour la radio. Donc mes radiologues étaient temps partiel à l'hôpital et donc également ils étaient radiologues en privé. Mais comme leur cabinet ils faisaient la clinique également à côté de l'hôpital, indifféremment dans la journée, ils faisaient des patients de l'hôpital ou des patients de la clinique. Et ça marchait très bien. Et c'est comme ça qu'on a fait d'ailleurs un groupe monétaire économique pour avoir le scanner, inauguré par Jean-Louis Bianco, le ministre à l'époque, puisqu'il avait, il était, vous savez, il était originaire également des Alpes de Provence. Et c'est quelque chose qui continue à fonctionner, qui marche très très bien. Voilà. Je crois qu'il faut voir les aspects économiques de la chose et il faut rester chacun dans son domaine. Le public reste le public, le privé reste le privé. Mais on peut très bien, gens travaillent ensemble parce que les plateaux techniques hospitaliers coûtent des montagnes d'argent et ça coûte extrêmement cher. Donc partager un plateau technique, c'est nécessaire et c'est toujours avantageux pour les deux parties.
Voilà, bon, on pourrait encore parler longtemps parce que je sens qu'il a beaucoup de choses à dire, Patrick, mais avant de s'arrêter parce qu'on arrive au bout de l'émission. Donc monsieur le directeur, justement, je voulais vous voir, bah, vous aurez son livre, hein, qui sera disponible. On est à Craponne, bah, Craponne chez Marie-Pierre et Viviane, hein, puisqu'il y aura des exemplaires, puisque ça a été édité à la clé du chemin. Hein,
absolument, par ouais. Mon ami Bernard
T'es
Lost. Tu
es resté vraiment craponnais, toi. Hein.
Ah oui, oui, oui. Puis Bernard Lost était un grand ami. Ouais. Un grand ami. Donc oui, moi, puis, je suis originaire de la Haute-Loire depuis quelques siècles. Ouais. Donc pur port. Et donc là, vraiment, je suis très, très attaché au Velay, à mes racines vélaves.
Alors pour terminer, là, il nous reste quelques instants. Qu'est-ce que tu retiens de ta vie de directeur d'hôpital? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'est ce côté humain?
Ah oui, oui. Ce que je garderai, c'est les regards, les remerciements des personnels, des patients, les familles, les gens qui disent merci monsieur, etc. Il y a eu des grands moments. Et puis c'est quand je suis retourné dans les hôpitaux que j'avais, comme Manos, c'était 12 ans de pur bonheur. Quand j'y suis retourné, de retrouver les personnels, certains étaient morts, d'autres étaient encore vivants, leurs conjoints sont venus me voir et tout, il y a des moments extrêmement touchants. Voilà, simplement, voilà une dernière anecdote. Je servais le champagne ou la clairette de Die, hein, oui. La clairette de Die à Noël. Le dernier Noël que je passe à Manos, c'était juste avant de partir. Il y avait un patient, je viens le voir, et puis il se met à pleurer. Il dit, vous savez, monsieur, il y a un an, j'étais déjà à l'hôpital ce moment-là, et vous êtes déjà venu me voir, et il s'est mis à pleurer. Et ça, ça reste.
Ouais,
ça reste.
Ça prend aux tripes.
Voilà.
Écoute, Patrick, merci. Hein, on est obligé d'arrêter parce qu'on va dépasser le temps. Mais c'est intéressant parce que souvent, il y a des gens, il faut les pousser. Toi, c'est l'inverse. Il faut un petit peu. Parce que je vois que tu as plein de choses à raconter.
Ah,
d'ailleurs,
oui,
ton livre,
oui.
J'ai pas regardé, mais il a un paquet de pages. Hein, donc,
il y a beaucoup d'anecdotes. Ouais. Beaucoup de. Voilà, j'ai voulu que ce soit vivant.
Voilà,
on y a tout.
La vie, ben, vous voyez, puisqu'on est à l'hôpital, on n'arrête pas d'en parler. En ce moment, avec le Covid-19, hein, il y a eu plein de choses. Ben, là, vous aurez la vie d'un directeur, hein, qui est passé par Lyon, par Vienne, par Manos, par Arles et par Annonay. Donc cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Puis vous la retrouverez après sur notre site. Notre invité du jeudi, monsieur le directeur, justement, je voulais vous voir, Patrick Charrier. Eh bien merci Patrick d'être venu.
Bien, merci de ton accueil. Hein.
Bah ouais, puis nous ça nous rappelle nos souvenirs, pas de l'hôpital, mais de notre jeunesse.
Ben, nous, ça faisait 14 ans depuis la mort de mon père que je n'avais pas remis les pieds à Craponne.
Voilà, ben toi c'est l'occasion. À travers ton livre. Et on va se quitter avec Serge Lama, bien sûr. Hein, je suis malade, donc l'hôpital, toujours pareil. Hein. Voilà. Allez, salut Patrick. Ah,
salut, merci.
Sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. Parfaitement malade. T'arrives on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans. Tu t'en fous comme un rocher, comme un péché. Je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, et tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul. Avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix, qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade.
Soy